Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel Espace. Nous parlons planète géante en compagnie de Tristan Guillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue, vous travaillez à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Est-ce que l'on peut mettre dans le même sac, j'allais dire, dans le même panier, l'ensemble des planètes géantes telles qu'on les définit dans les manuels du système solaire, hein, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, c'est-à-dire ces planètes de gaz. Et est-ce que c'est la même famille ?
Ben, déjà, elles sont très différentes des autres planètes du système solaire, les planètes telluriques, c'est-à-dire Mercure, la Terre, Vénus et Mars, qui sont des planètes beaucoup moins massives. Hein, Jupiter, c'est 300 fois la masse de la Terre. Saturne, c'est presque 100 fois la masse de la Terre. Et en plus, elles sont beaucoup moins denses que ces petites planètes. Elles sont faites essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Donc, au moins pour Jupiter et Saturne. Donc vraiment, on a là deux catégories. Les planètes telluriques, petites et relativement denses, faites de roches essentiellement. Et les planètes géantes qui contiennent beaucoup de gaz légers, d'hydrogène et d'hélium.
Donc si je vous dis, il y en a sur lesquelles on peut se poser et d'autres sur lesquelles on ne peut pas se poser, ça, c'est déjà une première différence. Les gazeuses, c'est celles, les géantes, c'est celles sur lesquelles on ne peut pas se poser.
Oui, effectivement. On passe continuellement du gaz à quelque chose qui ressemble plus à un liquide, mais sans qu'il y ait de transition d'océan, par exemple. On ne pourrait pas mettre un bateau. Ce serait, si on voulait se déplacer dans Jupiter, ce serait plutôt un dirigeable qu'il faudrait utiliser.
Alors, mettre tous dans le même sac, est-ce que ça veut dire que Jupiter et Saturne, c'est pareil, en dehors de ce que vous nous signalez, c'est-à-dire 318 masses terrestres pour Jupiter, c'est-à-dire il faut 318 Terres pour fabriquer Jupiter hein, en masse, et puis 95 pour Saturne, mais est-ce que ces deux planètes sont différentes ou pas, en dehors de cela ?
Mais disons que déjà, quand on les observe, c'est vrai qu'il y a des différences notables. Hein. Jupiter, on va voir la tache rouge, l'aspect des bandes. Saturne a des anneaux. Du point de vue de l'intérieur de ces planètes, je vais dire elles se ressemblent plus que de l'extérieur. C'est-à-dire que ce sont des planètes faites essentiellement d'hydrogène et d'hélium, comme je le disais, mais avec une quantité de choses plus denses, d'éléments lourds, sans doute des choses semblables à la Terre, sans doute aussi beaucoup de glace, d'eau, comprimé à très haute pression, très haute température, présente à l'intérieur de la planète, peut-être sous la forme d'un noyau central qui aurait donné naissance à ces planètes. Donc on aurait un noyau central de masse un petit peu, enfin, disons de l'ordre de 5 à 15 masses terrestres dans la plupart des scénarios, et puis une enveloppe d'hydrogène et d'hélium qui serait beaucoup plus grosse pour Jupiter, donc 300 fois la masse de la Terre et seulement 70-80 fois la masse de la Terre pour Saturne. Et sinon, il y a les deux autres planètes géantes du système solaire qui sont Uranus et Neptune, elles qui sont plus petites. On va former deux catégories en fait. Uranus et Neptune, c'est seulement 14,5 et 18 masses terrestres. Donc elles sont plus petites. Et celles-là, là aussi, on pense qu'elles sont faites d'un noyau de glace et de roche qui ferait une dizaine de masses terrestres, entre 10 et 15 masses terrestres, et puis d'une enveloppe, là aussi, mais plus ténue, d'hydrogène et d'hélium. Mmh. Donc, disons, la caractéristique commune de ces quatre planètes, c'est vraiment la présence de cet hydrogène et cet hélium dans l'enveloppe qui peut être plus ou moins étendue. Et cet hydrogène et cet hélium, c'est vraiment quelque chose qui lie toutes ces planètes et le système solaire au Soleil, parce que le Soleil est fait essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Donc ça nous donne des renseignements sur l'histoire de la formation du système solaire, parce que ces planètes géantes ont gardé ce gaz qui était présent lorsque le Soleil s'est formé.
Est-ce que ça veut dire, pour continuer les caricatures, hein, que la Terre, c'est une petite planète géante gazeuse qui a perdu toute son atmosphère ?
Non, en fait, ce serait plutôt, si on pouvait rentrer dans la caricature comme ça, ce serait une planète qui serait restée trop petite pour accumuler l'hydrogène et l'hélium. Dans le scénario standard de formation des planètes géantes, on pense qu'on va accréter, c'est-à-dire accumuler des solides autour du Soleil qui est en train de se former, et qu'à partir du moment où on atteint une certaine masse critique, de l'ordre de 10 fois la masse de la Terre, on arrive à capturer l'hydrogène et l'hélium qui est présent autour. Et dans le cas de la Terre, pour des raisons qu'on comprend pas encore tout à fait, mais bon, on commence à avoir quelques éléments de compréhension, ces planètes n'ont pas grossi suffisamment vite et donc n'ont pas pu capturer l'hydrogène et l'hélium qui étaient présents au départ. Alors que pour les planètes géantes, on a eu croissance rapide de ce noyau et capture de beaucoup d'hydrogène et d'hélium.
Comment sait-on cela ? Comment sait-on ce qu'il y a au centre des planètes géantes ? J'ai bien qu'on a précipité une sonde dessus, c'était sur Jupiter si mes souvenirs sont bons, à Galiléo je crois, lorsqu'elle a terminé sa mission, on l'a jetée entre guillemets dans l'atmosphère de Jupiter et elle a pénétré à l'intérieur. Mais comment sait-on ce qu'il y a à l'intérieur des planètes géantes ?
En fait, la sonde Galiléo, c'était une expérience qui a tout à fait bien réussi, mais on a effectivement envoyé une sonde qui a pénétré dans l'atmosphère de Jupiter et qui a fini par s'arrêter d'émettre quand elle a atteint une pression de 22 fois la pression atmosphérique et une température qui était de l'ordre de si mes souvenirs sont bons, de l'ordre de 200 degrés. Donc il commençait à faire chaud et la sonde ne pouvait plus émettre vers nous. Mais ça, elle a sondé une partie infime de l'intérieur de la planète. En fait, elle n'est même pas arrivée au niveau où on a vraiment condensation de l'eau, donc elle n'a pas pu avoir une mesure, par exemple, de l'abondance profonde d'eau dans Jupiter.
La première peau de l'oignon, quoi, vraiment.
Oui, c'était vraiment la première peau de l'oignon. Alors, même si ça nous a amené beaucoup de renseignements très intéressants, mais pour avoir vraiment la composition de l'intérieur de Jupiter, ben, en fait, on se base... ce sont des travaux qui datent des années 1920, en fait, sur la rotation de ces planètes. Quand on regarde bien une photo de Jupiter ou de Saturne, c'est plus frappant sur Saturne, on voit que la planète n'est pas sphérique, hein, elle est aplatie. Et ça, c'est dû au fait que ces deux planètes, Jupiter et Saturne, tournent vite sur elles-mêmes, en 10 heures à peu près. Et donc, elles ont tendance à être aplaties au pôle, et un peu plus allongé à l'équateur. Et cet aplatissement, en fonction de la rotation, nous donne des informations sur le profil de densité à l'intérieur de la planète. Alors ça, on a pu le faire donc en mesurant cet aplatissement donc dès les années 20-30, et puis... dans les années 70, à partir du moment où on a envoyé des sondes autour de Jupiter, Saturne, comme les sondes Pioneer, Voyager, on a pu mesurer vraiment le champ de gravité de ces planètes. Et si vous voulez, quand on a une sonde qui passe près de Jupiter, par exemple, et qui passe tantôt au pôle et puis à l'équateur, quand elle est au pôle, elle va être plus proche en distance du noyau, donc plus sensible à l'effet de la gravité de ce noyau central que quand elle est à l'équateur. Donc, si vous voulez, en faisant la différence des deux, on a une information sur la constitution interne de ces objets.
Est-ce qu'on a cherché aussi sur Terre à modéliser ce qui se passait ? Vous m'avez dit, hein, c'est majoritairement de l'hydrogène, et puis il y a d'autres choses, sans doute de l'hélium et d'autres composants, mais est-ce qu'on a essayé de prendre de l'hydrogène et puis de le concentrer d'une façon importante pour voir ce qui se passait à ce moment-là ?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que ces observations en elles-mêmes ne suffisent pas. Pour vraiment avoir des contraintes sur la composition de ces objets, il faut les modéliser et donc avoir précisément le comportement de la matière dans les conditions qui ont lieu à l'intérieur de ces planètes. Or, quand on prend Jupiter ou Saturne, on a une masse énorme et donc une compression de la matière qui est aussi énorme. On pense qu'au centre de Jupiter, on atteint des pressions qui sont de l'ordre de 50 millions de fois la pression qu'on a au niveau de la mer ici. Donc la matière change complètement de comportement. Et par exemple, l'hydrogène, qui d'habitude, dans nos conditions, est une molécule, va s'ioniser par effet de pression. Donc, on va casser les liens moléculaires et les liens électroniques. Et donc, l'hydrogène va changer de comportement. Et c'est un état de la matière qui est difficile à modéliser. Et effectivement, on a fait des expériences et actuellement, on a des expériences qui atteignent des pressions de l'ordre de 1 million, 2, 3 millions de fois la pression atmosphérique et qui permettent d'arriver à cet état de ce qu'on appelle métallisation de l'hydrogène, c'est-à-dire au moment où on casse ces molécules et ces atomes. Donc ça, on commence à y arriver. Alors, pour ça, on a besoin de faire des expériences où on prend un petit échantillon d'hydrogène et puis, en général, on va utiliser un laser extrêmement puissant qui va accélérer une plaque généralement d'aluminium et créer une pression extrêmement grande. On va avoir quelques nanosecondes pour faire des mesures et de là, on en déduit le comportement de la matière et on essaye d'appliquer ça aux planètes géantes.
Dans les bouquins d'astronomie, on lit toujours que Jupiter, c'est quand même un objet particulier parce que c'est la seule planète qui émet plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de cette planète géante, il y a des réactions dues à cette compression énorme qui dégage donc de la chaleur.
Alors en fait, si on regarde bien, c'est pas si unique que ça. Même si on prend la Terre émet de la chaleur par radioactivité et puis un petit peu de chaleur rémanente du fait qu'elle était chaude au départ et qu'elle s'est refroidie progressivement. Mais pour la Terre, c'est extrêmement faible par rapport à la luminosité qui est reçue du Soleil. Alors que pour Jupiter, effectivement, et pour Saturne, ça l'est encore plus, ces planètes émettent plus et émettent d'elles-mêmes, disons, je veux dire, autant d'énergie qu'elles n'en reçoivent du Soleil. Donc, quand on regarde la globalité, elles émettent deux fois plus d'énergie qu'elles n'en reçoivent du Soleil. Cette énergie qu'elles émettent, c'est simplement, disons, la chaleur qu'elles re-rayonnent qui est due au fait qu'elles se sont formées d'une masse de gaz assez étendue qui est toujours en train de se contracter et de se refroidir. On pense que Jupiter perd 1 degré par million d'années à l'intérieur. Donc c'est petit, hein, mais ça laisse une chaleur résiduelle qu'on peut mesurer. Alors pour Jupiter, on a des modèles qui marchent bien. On arrive à reproduire la chaleur qui est observée de façon pas trop difficile avec les modèles actuels. Dans le cas de Saturne, on a un petit problème. Saturne émet plus d'énergie qu'on supposerait d'après des modèles standards. Alors on pense que dans Saturne, il se forme des gouttes d'hélium qui sont en train de tomber vers l'intérieur de la planète, et ça c'est une autre source d'énergie supplémentaire qui explique cette chaleur qui est émise par Saturne. Dans le cas d'Uranus et Neptune, on a un autre problème qui n'est pas résolu. C'est que Neptune émet beaucoup de chaleur aussi, qu'on peut expliquer par son refroidissement. Par contre, pour Uranus, elle émet 10 fois moins de chaleur que Neptune, alors que c'est à peu près la même masse, à peu près les mêmes conditions. Et ça, on ne sait pas du tout pourquoi Uranus ne semble pas se refroidir.
Ça n'a pas l'air très simple. Hein. À chaque planète, il y a une spécificité. Essayer de comprendre.
Oui, effectivement.
C'est pas un modèle unique qui s'applique à toutes les planètes. Hein. À chaque fois, c'est une énigme.
Effectivement, à chaque fois, c'est une énigme et on se rend compte que l'histoire de la formation de ces planètes a pu impacter sur ce qu'elles sont devenues. Et donc, ces petites différences nous permettent souvent de revenir à la formation initiale de ce système de planètes.
Elles auraient pu naître dans des endroits différents de là où elles sont, elles auraient pu migrer. Ce qu'elles sont aujourd'hui donne des informations sur l'environnement dans lequel elles sont apparues.
Oui, alors on pense qu'elles se sont formées à peu près tout en même temps autour du Soleil, mais avec des petites différences de quelques millions d'années sans doute, qui sont peu au regard des 4,5 milliards d'années qui nous séparent de la naissance du système solaire, mais qui ont fait toute la différence entre Jupiter, qui a acquis une grande masse en hydrogène et hélium, et Uranus et Neptune, qui peut-être ont commencé à croître un peu plus tard et qui n'ont pas pu capturer autant de gaz.
Donc vous avez encore besoin d'observations. Je veux dire, les observations, pour vous, sont prépondérantes.
Ah, tout à fait. Tout à fait.
Ah, sauf que ce n'est pas évident de mettre un thermomètre ou de prendre la température dans ces planètes. Comment obtient-on de l'information autrement que par des modèles, par des constructions théoriques sur Terre ?
Alors, on peut observer déjà à partir des télescopes au sol. On a des instruments qui deviennent de plus en plus puissants et qui nous permettent d'observer les atmosphères de ces planètes. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est la composition déjà de ces atmosphères, parce que donc cette composition, elle est liée à la composition du Soleil, mais il y a des petites différences. Par exemple, on sait que Jupiter est enrichi en carbone, en azote, en soufre et aussi en gaz rare d'un facteur 3 à peu près comparé au Soleil, c'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de carbone sous la forme de méthane dans Jupiter par rapport à l'hydrogène qu'il n'y en aurait si on prenait un petit bout de Soleil et qu'on le mettait à la température de Jupiter. Et pour le cas de Saturne, Saturne est environ 7 fois plus enrichi en carbone. Et Uranus et Neptune, c'est un facteur 30 environ. Donc on essaye de comprendre d'où vient cet enrichissement. Est-ce que cet enrichissement, il est donné initialement quand on forme ces planètes, ou est-ce que on va progressivement enrichir ces planètes par des impacts de planétésimaux? En 1994, il y a eu une comète très fameuse, Shoemaker-Levy 9, qui est tombée sur Jupiter. Donc on a pu voir directement un de ces impacts. On sait que il y a plusieurs milliards d'années, il y en avait beaucoup plus. Est-ce que ça peut être la cause de cet enrichissement? Comment ça peut nous informer sur comment ces planètes sont nées? Donc on a, un constant va-et-vient entre les observations et les modèles. Et puis on a d'autres choses que les instruments sols, on a des sondes. Donc par exemple, il y a la sonde Cassini qui tourne autour de Saturne actuellement, donc qui, par exemple, mesure le champ de gravité de Saturne de façon beaucoup plus précise que ce qui a été fait jusqu'à présent, aussi le champ magnétique de cette planète. On a une sonde Juno qui va être envoyée vers Jupiter en 2016, donc là aussi on espère avoir beaucoup d'informations sur cette planète et essayer d'avoir l'abondance profonde d'eau dans Jupiter, parce que l'eau, c'est important sur Terre pour l'apparition de la vie, mais dans l'univers, c'est un élément très abondant. En fait, quand on prend la composition du Soleil, on a l'hydrogène, l'hélium, et l'oxygène est le troisième élément le plus abondant. Hein. Donc l'eau est formée d'oxygène et puis de 2 atomes d'hydrogène. Ça, c'est une brique vraiment extrêmement importante pour la formation des planètes. Et donc, on est à la recherche de l'eau aussi dans les planètes géantes.
Est-ce que vous arrivez, parce qu'on a beaucoup de mal souvent quand on voit justement toutes ces informations, hein, 318 masses terrestres pour Jupiter, plus d'une centaine pour Saturne, avec une taille que l'on a du mal à imaginer hein, à travers les images même des sondes. Vous arrivez, vous, à imaginer ce qu'est une planète géante? Vous la représentez, un objet comme Jupiter, par exemple, lorsque vous recevez des images de la sonde Cassini, est-ce que vous réussissez à l'appréhender, par exemple?
C'est vrai que c'est difficile, hein, c'est difficile. Disons que on se fait une idée de par toutes les images qu'on reçoit, mais c'est vrai que tant qu'on n'y a pas été physiquement, ça reste quelque chose d'assez théorique.